Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives. Musique juive d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, comme on va le découvrir ce soir. Et notre émission, justement, sera consacrée aux chansons et aux musiques de scène, c'est-à-dire musique de théâtre, de cabaret, de cinéma, écrites sensiblement entre les années 1930 et 1950 par des compositeurs juifs, autrichiens et allemands, contraints de s'exiler à Paris et à Hollywood suite à la montée du nazisme. Et pour nous parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Isabelle Georges.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous venez d'enregistrer un superbe disque avec le pianiste Jeff Cohen, qui s'intitule donc Vienne, Paris, Hollywood. Et il y a le nom de quelques compositeurs qui figurent dans ce disque. On va les entendre, puisque comme vous le savez, notre émission est musicale. Donc, il s'agit notamment de Weill, de Glanzberg, de Hollander et de Korngold. Et Isabelle Georges, alors... Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes, je crois, une artiste de comédie musicale. Vous avez une formation.
Tout à fait, oui.
Alors, vous me direz si je me trompe, hein, j'ai été chercher tous les détails de votre CV. On en lit beaucoup sur Internet.
C'est sûr.
Vous avez fait énormément de choses, donc aussi un petit côté hyperactif, je suppose.
Oui, passionné.
Alors, passionné, ça va souvent ensemble. Donc, qui dit comédie musicale dit que vous chantez aussi bien que vous dansez, que vous jouez la comédie. Et vous avez non seulement interprété les grands classiques du genre, comme Chantons sous la pluie, Titanic, sur les scènes du monde entier. Vous avez obtenu au Festival d'Édimbourg en 2005 j'espère que je prononce bien, le Fringe Report Award de la meilleure chanteuse. Mais votre curiosité et votre hyperactivité vous a poussé à explorer de nombreux autres genres théâtraux musicaux. Par exemple, vous avez chanté, enregistré 2 disques, je crois, avec le Sirba Octet.
Tout à fait. Yiddish Rhapsody et du Shtetl à New York.
Vous avez bien répondu, c'est super. Et vous êtes en plus intéressé au compositeur Norbert Glanzberg, qui figure dans ce disque et dont on va reparler tout à l'heure, autour duquel vous avez créé avec Jean-Luc Tardieu un spectacle qui s'intitulait Padam Padam, qui était un des grands succès parisiens de l'année 2011. Et donc aujourd'hui, ce nouveau disque avec donc le pianiste Jeff Cohen. Alors ma première question va être toute simple. Comment vous est venue l'idée de réaliser ce disque et pourquoi ce titre Vienne, Paris, Hollywood?
Alors c'est une histoire un peu farfelue qui a commencé très mal. C'était lors d'un week-end Korngold à la Maison de la Radio organisé par France Musique. 3 jours avant le dit week-end, je reçois un coup de téléphone de l'organisateur qui me dit « Isabelle, on a un énorme problème, il y a une chanteuse allemande qui devait venir pour faire un concert sur Korngold avec Jeff Cohen à la Maison de la Radio et elle est tombée, elle s'est cassé les dents.
Ah.
Et est-ce que tu pourrais regarder le programme et voir si tu peux éventuellement remplacer au pied levé ?» Alors je lui dis, écoute, envoie-moi le programme. Je reçois un programme avec 18 chansons que je connaissais pour certaines, d'autres absolument pas du tout, mais que je n'avais jamais chantées. Donc j'ai demandé à rencontrer le pianiste. Alors c'est très marrant parce que j'avais déjà croisé Jeff, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se parler. Donc nous nous sommes rencontrés le lendemain, 3h au CNSM, autour d'un piano. Et ça a été comme un coup de foudre artistique. Déjà, le programme, j'ai dit à Jeff, voilà, je pense que je ne pourrais pas faire 18 chansons que je ne connais pas, donc il va falloir transformer ça un tout petit peu pour que ça soit faisable dans 3 jours. Grâce à la Maison de la Radio, il y avait un énorme tas de partitions avec beaucoup de possibilités. Donc il avait déjà fait un programme avec la chanteuse allemande. Le programme a considérablement changé puisqu'elle n'était plus là, c'était moi. Et au bout des 3 heures, Jeff m'a dit « Allez, tu peux le faire ». Et donc, 3 jours plus tard, je me suis retrouvée au Studio 104 avec Jeff, tous les deux, sur cet immense plateau, tous les deux tout nus, à faire un programme. Alors, c'est vrai que ce programme-là était plus autour de Korngold, vraiment, principalement, puisque c'était un week-end Korngold. Et après ce concert complètement fou, avec Jeff, on s'est dit, on ne peut pas en rester là. D'abord, parce qu'on a vraiment eu un coup de foudre artistique autour du piano, le mélange de son piano, de ma voix, ça a fait sens très rapidement. Et puis parce que je connaissais Korngold, je connaissais La Ville Morte, mais je connaissais pas du tout tout l'aspect musique de film et chanson. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et c'est pareil, parfois quand on est chanteur ou quand on est acteur, mais là c'est un peu les deux, il y a des rencontres ou des choses qui font sens, et là ça a fait totalement sens. Donc j'ai dit à Jeff, écoute, je pense pas qu'on va en rester là, on verra. Et là-dessus est arrivé un type qui s'appelle Philippe Maillard, qui s'occupe des concert parisien, qui avait entendu, puisque c'était retransmis en direct sur France Musique, et qui nous a dit, est-ce que vous aimeriez faire un disque, mais il faudrait peut-être adapter certaines choses. Et donc avec Jeff, on s'est mis au boulot et on a commencé à fouiller et à rêver autour d'un disque qui est devenu Vienne Paris Hollywood.
Alors avant qu'on parle justement de ce titre un peu énigmatique, vous connaissez le principe de l'émission, on entend régulièrement de la musique.
Tout à fait.
Donc je vous propose d'écouter tout de suite une première chanson, ce n'est pas du Korngold, c'est un compositeur que je ne connaissais pas du tout, il s'agit de Werner Richard Heinemann, né en 1896, mort en 1961, la chanson s'intitule « Serait-ce un rêve ?», une très belle chanson, donc écrite à l'origine pour Liliane Harvey, qu'il a chantée pour la première fois en 1931 dans un film qui s'intitulait « Le Congrès s'amuse ».
Je crie, je ris, tout me sourit, je suis heureuse aujourd'hui. Mon petit cœur, j'en ai bien peur, va se briser de bonheur. J'ai trouvé le prince charmant, comme dans les romans. Serait-ce un rêve, un joli rêve? C'est bien trop beau pour être vrai. Ce n'est qu'un songe, un joli songe, qui m'éblouit et disparaît. La belle histoire, je n'ose y croire, j'aurai trop de chagrin après. Le plus beau songe n'est qu'un mensonge, bientôt je me réveillerai. Le plus beau rêve un jour s'achève, c'est bien trop beau, je crois, pour être vrai. Le ciel est bleu, les amoureux ont du bonheur plein les yeux. Pleuvoir, faire très noir, mon cœur est rempli d'espoir. Voilà quelle est depuis toujours la force de l'amour. Serait-ce un rêve, un joli rêve? C'est bien trop beau pour être vrai. Ce n'est qu'un songe, un joli songe, qui m'éblouit et disparaît. La belle histoire, je n'ose y croire, j'aurai trop de chagrin après. Le plus beau songe n'est qu'un mensonge, bientôt je me réveillerai. Le plus beau rêve un jour s'achève, c'est bien trop beau, je crois, pour être vrai. Le plus beau songe n'est qu'un mensonge, bientôt je me réveillerai. Le plus beau rêve s'achève, C'est bien trop beau, je crois, pour être vrai.
Serait-ce un rêve ? Une très très belle chanson de Werner Richard Heinemann, interprétée ici par Isabelle Georges, accompagnée au piano par Jeff Cohen. Extrait donc de ce CD dont nous parlons, Vienne, Paris, Hollywood, paru au label La Musica. On donnera à nos auditrices et auditeurs à la fin de cette émission tous les moyens de se procurer ce très très beau disque. Moi, ce qui me frappe, Isabelle Georges, quand j'entends... Alors, vous me parliez de rencontre avec Jeff Cohen, quand j'entends le piano ici... c'est vrai qu'il y a un alliage tellement, c'est presque un écrin autour de votre voix. Il y a un côté, quand il joue Jeff ici, on dirait presque une boîte à musique.
Mais totalement, en plus cette chanson, elle a un trait un peu à l'enfance, même si elle ne se termine pas forcément, enfin, si les paroles sont un petit peu douces amères, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance, et c'est aussi une des premières chansons qu'on a déchiffrées, découvertes avec Jeff, autour du piano ce fameux matin, et donc c'était impossible qu'elle ne soit pas sur le CD. Et Jeff, c'est ça que je trouve absolument extraordinaire avec lui, c'est que il y a une douceur, une tendresse, et c'est un peu de la dentelle. C'est vraiment, il est à l'écoute sans arrêt. Ce qui est extraordinaire, même si le disque a figé un instant, c'est que quand on fait ce programme en concert, ça bouge toujours un tout petit peu, c'est très vivant. Mmh. Et c'est vrai, quand je dis un coup de foudre artistique, c'est que tout à coup, ma voix s'est posée sur son jeu et inversement, et ça nous rend très heureux, en fait. Quand on se retrouve, on est un peu comme deux gosses.
C'est une histoire magnifique. Alors, vous dites que cette chanson finit un petit peu de façon amère, et en fait, c'est un peu l'histoire de ces compositeurs qui est parfois amère, puisque comme votre disque, le titre de votre disque intitulé Vienne, Paris, Hollywood le dit, il s'agit de compositeurs juifs qui ont dû fuir pour la plupart le nazisme, donc on fait des brillantes carrières avant. Là, ce sont beaucoup étaient des compositeurs pour le cabaret, pour le théâtre, pour les premiers films, l'opérette et tout, comme Heinemann, dont on vient d'entendre de la musique, et qui a dû donc lui aussi partir. Et donc, première question, vous dites Vienne, Paris, Hollywood. En fait, ils sont souvent passés par Paris, qui était souvent un passage, ils sont partis à Hollywood, sauf peut-être, on en parlera après, Norbert Glanzberg. Mais est-ce qu'ils venaient tous de Vienne ?
Non, il y en a qui n'ont fait que passer par Vienne. En fait, à un moment, on a dû rétrécir le titre de voyage, parce que d'abord, il y en a qui venaient de Berlin, de Würzburg, enfin, je veux dire, c'est très très varié, mais ils sont tous passés par Vienne, c'est ce qui a été un peu notre point commun. Après, il y en a beaucoup qui sont passés par Paris, et il y en a aussi qui sont passés par New York, Broadway, mais on pouvait pas, enfin, à un moment, c'était un peu trop long de mettre, par exemple...
on pouvait pas mettre toute la feuille de voyage,
c'est sûr. Le carnet de voyage, par contre, ils ont tous ce point commun d'être passés par Vienne. Les 99% sont passés par Paris aussi, et pas tous. En fait, Vienne, Paris, on aurait pu mettre Paris ou Hollywood, parce que certains sont restés à Paris. D'autres sont allés à New York d'abord, puis à Hollywood, et d'autres à Hollywood directement.
Alors, justement, pour dire quelques mots rapidement sur Heinemann, lui donc est passé, comme vous l'avez dit, par Paris assez rapidement, puisqu'il s'est installé aux États-Unis dès 1936. Oui. Et il a composé à Hollywood, bien sûr, les musiques d'une quarantaine de films américains, notamment ceux réalisés par Ernest Lubitsch entre 1937 et 1950. Quatre nominations aux Oscars, quand même. Et alors, il est quand même, après, en 1951, il est revenu en Allemagne, ce qui est quand même fallait le faire à l'époque, et il a continué à travailler pour le cinéma jusqu'en 1960.
Alors, par rapport à ça, j'ai une histoire qui est assez jolie et en même temps assez, enfin, oui, pareil, triste aussi. Heinemann, quand il est revenu en Allemagne, il a à cette époque-là, et on demandait aux gens, parce qu'il n'y avait plus de passeport ou de carte d'identité, etc., de chanter une chanson pour prouver qu'il venait bien d'Allemagne. Et il a chanté Irgendwo auf der Welt. Et il a chanté cette chanson, et qui est une sorte d'hymne et qui est connue par absolument tout le monde. Et le douanier lui a dit « Ah, très bien ». Et il a fini par ajouter « Oui, mais c'est moi qui l'ai composé ». C'est-à-dire que c'est assez dingue, quoi, de dire que cet homme a pu revenir chez lui grâce à une chanson qu'il a composée. Mais personne ne le savait, et certainement pas le type qu'il avait en face de lui à l'époque.
Oui, ce qui est terrible, c'est que le nazisme a chassé mais, des milliers et des milliers de bon, non seulement a tué des millions de personnes, mais aussi a chassé de ses terres des milliers de gens extrêmement talentueux. Mmh. Et, ce qui a profité d'ailleurs quelque part aux États-Unis. Parce qu'on le verra, on va en parler, la place des compositeurs juifs est très importante, notamment dans le cinéma, mais pas uniquement dans les comédies musicales américaines. Alors, on va faire une deuxième pause musicale. Avec cette fois-ci la musique d'un film légendaire, puisqu'il s'agit de L'Ange Bleu,
oui.
Qui est le premier film parlant allemand, donc qui a été joué notamment avec la star de l'époque Marlène Dietrich.
Oui.
Et la musique de ce film, donc, qui date de 1930, a été composée par Friedrich Hollander, encore donc, un compositeur juif allemand dont nous allons parler tout de suite après.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine Augen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts.
Ich bin von Kopf bis Fuß de Werner Richard Heinemann, une chanson toujours interprétée par Isabelle Georges, que nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio, accompagnée au piano par Jeff Cohen, issue de ce très beau disque Vienne Paris Hollywood. C'est une chanson donc en allemand et qui veut dire, je crois, je suis de la tête aux pieds. Mmh. Et vous me disiez hors micro que c'est une des rares chansons en allemand, peut-être la seule qui est contenue dans le disque.
Tout à fait, c'est la seule chanson allemande, chantée en allemand, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains des films qui ont été tournés en 30, 31, 32, 33, les tournages étaient faits en plusieurs langues.
Il n'y avait pas de doublage à l'époque, en fait.
Non, il n'y avait pas de doublage, donc on tournait une fois en allemand, une fois en français, une fois en anglais. Et mais cette chanson-là, on l'a choisie parce que, et on l'a mis vers la fin du concert ou vers la fin du disque, parce qu'on s'est dit, elle est pareille, elle a un petit côté douce amer, enfin... J'adore d'ailleurs l'adaptation anglaise qui dit « Falling in love again, never wanted to, what am I to do, I can't help it ». Et ça nous a vraiment fait penser à tous ces compositeurs qui ont dû s'exiler et qui sont quelque part tombés amoureux de l'endroit où ils sont arrivés, tant bien que mal, parce que ils n'avaient pas forcément prévu du tout de se retrouver ni aux États-Unis ni en France, et que petit à petit ils ont recommencé leur vie et recommencé à faire partie de quelque chose et quelque part à retrouver de la joie, à créer, à transcender un peu tout ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi cette chanson, enfin une seule chanson, et aussi parce qu'on se disait c'est par pudeur, par respect pour eux, parce que pour certains ça a été très difficile de rentrer chez eux. Je pense à Korngold qui pensait retrouver la gloire qu'il avait quand il est parti et qui ça n'a absolument pas été le cas. Et enfin, parce que Marlène Dietrich est quand même une des figures qui a rejeté ce qui se passait dans son pays immédiatement. Et je trouvais que tout ça faisait vraiment sens.
Ouais, ça faisait sens, absolument. Alors, Hollander, juste quelques mots. Donc, le compositeur immortel de cette musique du film L'Ange Bleu, interprété, comme on l'a dit, par Marlène Dietrich. Mais donc, il doit fuir l'Allemagne nazie dès 1933, parce qu'il est dans le, entre guillemets, collimateur des nazis. Et il s'exile aux États-Unis. Et là, il va composer la musique de plus d'une centaines de films. Alors pour les plus grands réalisateurs, hein, je ne vais pas citer tous les noms, mais encore une fois Ernest Lubitsch, il y a Sabrina de Billy Wilder, Comment l'esprit vient aux femmes de George Cukor, enfin c'est assez énorme. Ce qui me fascine moi un petit peu, c'est que cette présence des compositeurs juifs qui vont presque naturellement trouver leur place, comme vous l'avez dit, soit sur la côte est, où c'est plutôt, je crois, c'est Broadway, c'est la musique de scène, oui. Et où la côte ouest où c'est le cinéma, mais il y a énormément de compositeurs juifs qui sont très actifs dans le domaine des arts, de l'art lyrique ou du cinéma. Comment on peut expliquer ça? Parce que on parle des films parlant, les premiers films parlant allemand en 1930. Oui. En 1929, c'est le premier film parlant, The Jazz Singer aux États-Unis avec Al Johnson. Et ça met, encore une fois, c'est amusant, le premier sujet du premier film parlant, c'est quoi? C'est une histoire d'intégration, en fait, plus ou
Totalement.
Moins, des juifs aux États-Unis qui veut devenir noir, le fils, son père est chante dans une synagogue. Ça se passe pas bien. Alors comment on peut expliquer un peu le fait de cette présence juive aussi bien aux États-Unis qu'en Allemagne et tout, pourquoi?
Pour ce qui est de Hollander par exemple, et Heyman aussi, déjà justement à l'avènement du film parlant, ils ont commencé à faire de la musique de film en Allemagne. Et donc et en Allemagne à l'époque, l'opérette, le cabaret, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était déjà en pleine gloire, enfin en pleine explosion. Et je pense que donc ça, c'est une des raisons qui a fait qu'ils ont pu continuer quelque part ce qu'ils avaient déjà commencé, riches de toute cette expérience. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils ont eu un succès tel une fois arrivés aux États-Unis. Mais c'est pas la seule. Et alors là, c'est une interprétation tout à fait personnelle. Quand je travaillais déjà sur Du Stettel à New York avec Sirba, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est fou, 99 ou 90% du songbook américain est constitué de compositeurs juifs, deuxième génération immigrants juifs de l'Est. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que toutes les comédies musicales de cette époque se terminent bien. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et ma petite interprétation, c'est que, mon humble interprétation, c'est que les parents ont quitté la Russie, pour la plupart, pour venir se poser aux États-Unis. Ils s'attendaient à trouver des golden épaves, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ils se sont tués dans les sweatshops, au travail, et ils ont fait tout ce chemin-là pour permettre à leurs enfants d'avoir une vie digne de ce nom. Et ces enfants-là, ça donne Gershwin, Irving Berlin, Harold Arlen. Et j'ai l'impression qu'en écrivant les comédies musicales, qui sont fortement inspirés de tout, même s'ils ont repoussé au départ leur héritage qui est très très inspiré des cantors, de la synagogue, enfin, ces enfants ont voulu rendre un hommage à leurs parents, et c'est pour ça je pense que les musiques sont parfois plutôt joyeuses et que les comédies musicales se terminent bien, c'est-à-dire que c'est comme pour donner une fin heureuse à leurs parents de manière créative.
Ah ben, oui, c'est souvent le cas d'ailleurs de la seconde génération. On est porteur d'un héritage, les parents se sacrifient et on doit réussir, et en même temps on a une filiation à transmettre. En tout cas, il y a un autre compositeur dont on va parler tout de suite et qui figure en bonne place dans le disque. Il s'agit de Kurt Weill. Alors Kurt Weill, c'est l'exemple typique, lui aussi a travaillé pour les cabarets, enfin c'est un compositeur absolument incroyable. Et Kurt Weill, lui, il avait déjà une certaine notoriété, notamment à Paris avant-guerre, qui fait que quand, à l'avènement du nazisme, quand il est obligé de fuir aussi, il va déjà aller à Paris, où pendant 2-3 ans, il va essayer de se faire son petit coin, mais malheureusement, ça ne se passe pas très bien, je crois.
Hein. Non, ça ne se passe pas très bien, et je pense que c'est ce qui l'a motivé à partir. C'est assez intéressant, parce que Kurt Weill, Hollander, Heyman et Glanzberg, dont on parlera plus tard, c'est vraiment assez commun. C'est-à-dire, ils sont tous les quatre passés par Paris. Kurt Weill, d'ailleurs, connaissait très bien Norbert et les parents de Norbert Glanzberg. Et il est parti aux États-Unis en même temps que les parents. Il est parti un petit peu dépité, Kurt Weill, parce que ça ne marchait pas très, très bien pour lui. Et du coup, il est allé tenter sa chance. Riche, d'ailleurs, je pense que ça l'a aidé beaucoup à réussir de l'autre côté de l'Atlantique. C'est échec, je ne sais pas si c'est le cas de le dire, mais en tout cas, c'est non-succès parisien. Mmh.
Il y a une scène évidemment qui reste gravée dans les esprits, c'est lorsqu'il s'était produit, je crois, à la salle Playel en 1933 et que le compositeur Florent Schmitt s'est levé en pleine interprétation d'une de ses chansons qui s'appelait La Ballade de César en criant Vive Hitler, à Hitler, et avec en plus l'approbation d'une partie du public. Donc peut-être que Kurt Weill certainement a senti que l'atmosphère n'était pas vraiment propice aux Juifs à ce moment-là, et il est parti donc en 1935 ou 1936 rejoindre les États-Unis, et là-bas, évidemment, il va très bien s'intégrer à ces musiques de films qui sont en train de se faire. On va écouter tout de suite une de ses chansons qui s'appelle Youkali. Alors, comme elle est un peu longue, je l'ai raccourcie, vous n'en voudrez pas. Ah. Et on en parlera tout de suite après.
D'accord.
C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde. Errant au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. Au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain.
Un extrait de Youkali, une chanson de Kurt Weill, toujours extrait donc du CD Vienne, Paris, Hollywood. Hors micro, on discutait de cette chanson qui reste un peu mystérieuse. Et là, je dois souligner l'exemplaire tenu du livret qui a été écrit. Alors, l'introduction par vous-même, Isabelle Georges, très belle introduction. Et après, beaucoup de détails assez savants écrits par Amaury Duclosel, qui est bien connu pour travailler dans ce domaine des musiques, des Entartete musiques, ou des musiques dites dégénérées qui animent avec brio nous plein de projets autour de ces musiques, et on le salue bien au passage. Donc Amaury Duclosel, qui dit dans son livret que ce tango est souvent rattaché par erreur à la musique de Marie Galante. Donc c'est une musique qui avait été écrite par Kurtwell justement à Paris en 1934, que c'était à l'origine un tango habanera, ça s'entend d'ailleurs, oui. Jeff Cohen le met bien avec le rythme à la base là, et que ça a été donc en fait repris après-guerre, là, en 1946, pour une chanson de Roger Fernet. On va écouter très rapidement un deuxième morceau de Kurt Weill, parce que là, absolument pas en français, mais en anglais, qui me semble assez symbolique, qui s'intitule « I am a stranger here myself ».
Tell me, is love still a popular suggestion, or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with this heart. I am a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I am a stranger here myself. I dream of a day, of a gay warm day, with my fate between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask and no one understands. Love me or leave me, that seems to be the question. I don't know the tactics to use, but if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell me, tell a stranger by curiosity goaded, is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you wasted. True romance is so fleshly, with what have you replaced it? What is your latest foible? Is gin rummy more exquisite? Is king more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love has lost its glamour, that passion is really passé. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission. I must discover the key to his ignition. And then, if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly refuse? How could I possibly refuse? When I'm a stranger here myself.
I am a stranger here myself. Toujours Isabelle George, Jeff Cohen, Vienne, Paris, Hollywood. Le CD qu'il vous faut acheter, le CD du moment, et qui va rester pendant un bon moment parce que c'est un CD assez extraordinaire. Vous me disiez d'ailleurs en micro, Isabelle George, que ce qui vous a réuni avec Jeff Cohen, c'est que justement là, on entend, c'est une musique de film, on va en parler, c'est tout à fait un autre style que ce qu'on a entendu précédemment avec la même chanson de Kurt Weill, Yucali, qui était plutôt une musique de scène. Auparavant, on a entendu une chanson très douce, musique de film. Enfin, vous parcourez tous les genres et c'est assez extraordinaire parce que vous, c'est vrai que vous étiez fait l'un pour l'autre, Jeff et vous, parce que vous êtes tous les deux des extraterrestres dans votre façon d'interpréter les...
Petit peu, on s'est dit, c'est aussi ce qui nous a énormément plu dans ce répertoire, c'est que c'est inclassable, en fait. Jeff est inclassable, il accompagne aussi bien les chanteurs lyriques que de la comédie musicale, qu'il écrit de la musique de scène, il a écrit de la musique de film. Et puis, de mon côté aussi, je fais un peu ce que j'aime, et ça veut dire qu'on a un peu du du mal à mettre une étiquette sur la tête. Et là, ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'on peut, avec ces compositeurs-là, ça va du cabaret à la musique de film, en passant par la comédie musicale, parfois un peu l'opérette, et même jusqu'à la musique classique. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Ce qui nous a aussi frappé, c'est dans le cadre de Norbert Glanzberg, par exemple, c'est quelqu'un qui est totalement parti pour faire de la musique classique et qui va se retrouver obligé de faire de la chanson française, alors que ce n'est pas du tout au programme, ce n'est pas du tout ce qu'il a rêvé. Et que ça va même aller au-delà de ça, c'est-à-dire que non seulement il va faire de la chanson française, mais ça va devenir des tubes que tout le monde connaît. Et ça aussi, avec Jeff, ce qui nous a vraiment interpellés, c'est cette manière extraordinaire de transcender, de passer au-delà de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a de terrible, de tout ce qui les force à l'exil, et de continuer à créer. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous a réunis, la force de la création.
Ah oui, alors, quand Kurt Weill arrive à New York, comme on l'a dit, à l'époque, les États-Unis, New York, c'est Broadway, c'est la scène, oui. et la côte ouest, Los Angeles, Hollywood, c'est le 7e art, le cinéma. Et donc, en 1938, Kurt Weill va tenter sa chance sur la côte ouest. Ça ne sera pas une expérience forcément heureuse au départ, je crois. Il dit, et c'est, je cite le livret de Amaury Duclosel, « C'est l'endroit le plus absurde du monde et je n'ai jamais vu autant de gens soucieux et malheureux à la fois. » Mais c'est avec les comédies, notamment à Broadway, avec les comédies musicales, avec notamment Lady in the Dark en 1940, qu'il va commencer à trouver le succès. Et puis, cette chanson magnifique qu'on vient d'entendre, « I am a stranger here myself », qui est extrait d'une autre comédie musicale qui s'appelle « One Touch of Venus », qui date de 1943, donc, alors que la guerre bat son plein. Et c'est tout à fait symbolique. Ici, je suis un étranger... moi-même.
Oui, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette chanson. C'est-à-dire, toutes les chansons sont choisies, évidemment, parce qu'on aime les mélodies, mais aussi parce que chacune d'entre elles, au niveau du texte, est d'une richesse infinie et va dans... En fait, comme on parle d'un voyage, à chaque moment, chacune des chansons parle d'un sentiment précis au cours de ce voyage. Et évidemment, arriver dans un pays où on ne maîtrise pas encore très bien la langue, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, on est certes riche de jouer du piano ou d'être compositeur, mais il faut encore faire sa place. Et puis, oui, il y a tout à découvrir. Donc cette chanson-là, elle parle de ce moment-là du voyage, quoi, de l'arrivée.
Alors ce voyage dans ce disque qui se fait en 18 chansons, les 18 chansons que vous n'aviez pas voulu faire pour le concert, voilà. On les retrouve ici dans le disque, donc bravo, vous avez relevé le défi avec quelques temps de retard, mais c'est magnifique. Et on va, au cours de ce voyage, nous attarder sur un compositeur qu'on a maintes fois cité. Donc, il s'agit de Korngold, de son prénom Erich Wolfgang Korngold, né en 1897 et mort en 1957. Alors là, Korngold, c'est pas moins de 7 chansons dans votre disque. Pourquoi Korngold en particulier?
Parce que c'est vraiment une découverte de ma part, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai adoré La Ville morte, mais c'est tout ce que je connaissais en fait. Et tout à coup, la découverte des chansons et de sa musique de film, et de m'apercevoir que quand j'étais petite, j'ai vu quelques films et je ne savais pas du tout que c'était sa musique qui allait avec. Ça a été un vrai coup de foudre aussi. Au même titre que Jeff et moi, le coup de foudre artistique s'est fait avec Korngold. Et aussi parce que c'est une figure très intéressante et très différente des autres. Korngold, il n'avait quasiment pas de conscience politique. C'est-à-dire qu'il est parti d'abord à Hollywood une première fois pour suivre un metteur en scène, je crois que son nom est Reinhardt, qui lui a dit « il faut absolument que tu viennes, il y a quelque chose à faire ». Donc il a commencé à travailler là-bas, mais il est revenu après à Vienne, et puis il est reparti une autre fois pour travailler. Il n'avait pas du tout, comme les autres, la conscience de ce qui se passait. Et finalement, il s'est retrouvé là-bas à travailler une deuxième ou une troisième fois, et puis il n'a pas pu revenir quelque part. Tout à coup, il s'est rendu compte que là, c'était vraiment dangereux. Et c'est une des grandes différences. Et une autre, c'est que j'aime énormément ce compositeur, parce qu'il disait, son père était un grand critique viennois, assez dur, qui considérait qu'il y avait la grande musique et tout le reste, c'était de la sous-musique. Or, Korngold, il va défendre, alors qu'il vient d'une famille où c'est vraiment pas possible, l'inverse. Il va dire, mais il n'y a pas de honte à faire de la musique de film. Il va même dire, c'est aussi une aussi grande exigence. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur La grande musique, la... ouais, pour moi, il y a la musique, point. et ça, c'est une des choses que défend Eric Wolfgang Korngold.
Et d'ailleurs, il dit, je cite le livret toujours, « Partagé entre l'opéra et la musique de film, tantôt je jouais à être sérieux, tantôt j'écrivais sérieusement des chansons. » Ça, je trouve ça extraordinaire comme citation. Alors, on va écouter donc, tout de suite une courte chanson de Korngold, écrite donc, pour son film, pour le film Sea Hawk de 1940. En fait, il s'agit d'une reprise d'une mélodie de jeunesse qu'il a arrangée donc avec un nouveau texte et qui lui a donné donc le titre de Old Spanish Songs.
Stood a maiden at her window, sadly gazing out to sea. Pale her cheek, her heart how heavy. Sorrowful her melody. My love is far from me. The evening yields a light, a star awaits the night, and the wind brings back an echo faintly from across the sea. Carries home her melody. My love is far from me.
On ne nous a pas demandé, lorsque nous n'avions pas de visage, si nous voulions vivre ou non. Maintenant, je vais seule à travers une grande ville et je ne sais pas si elle m'aime. Je regarde dans les maisons par les portes et les fenêtres et j'attends quelque chose.
My love is far from me.
Si je devais me souhaiter quelque chose, je serais bien embarrassée. Que souhaiter ? Un temps meilleur ou pire ? Si je devais me souhaiter quelque chose, je souhaiterais être un peu heureuse. Car si j'étais trop heureuse, j'aurais une nostalgie pour la tristesse.
My love is far from me.
Old Spanish Song de Erich Wolfgang Korngold, toujours extrait du CD Vienne Paris Hollywood, et une musique très mélancolique, très, très douce. En plus, il y a ce texte en français, c'est un peu étonnant. Ça fait partie de la musique de Korngold ?
Non, c'est un texte écrit par Friedrich Hollander pour Marlène Dietrich. Et que j'ai trouvé et que je trouvais absolument magnifique et je trouvais qu'il correspondait tout à fait à ce que dit cette petite chanson. C'est-à-dire, comme on parlait du voyage et des sentiments différents qui habitent quelqu'un quand il est obligé de tout quitter, de se retrouver dans un endroit qu'il ne connaît pas, il y a des moments de grande de questionnement et de grande nostalgie et s'en éteint. Et je trouvais que le texte était assez... assez juste et assez percutant et accompagnait totalement la musique, la nostalgie de cette petite chanson.
Une très belle chanson. Alors, on va tout de suite parler d'un autre compositeur qui figure aussi dans ce disque et qui est moins connu. Il s'agit de Max Steiner, qui est un compositeur juif viennois. Donc, lui, il a émigré aux États-Unis beaucoup plus tôt, en fait, dès 1914. Donc, c'est un cas un peu particulier.
Tout à fait. Je vous interromps. C'était aussi une des... quand tout à l'heure, vous disiez comment on explique la réussite parfois de ces compositeurs. Ben nous, on pensait avec Jeff que Max Steiner a ouvert la voie, qu'il a vraiment, qu'il a, d'ailleurs, il a beaucoup de points communs avec Korngold au niveau de la richesse du son, etc. Mais il a vraiment ouvert la voie. Il a, je pense, permis et accueilli aussi certains de ses compositeurs. Il leur a facilité l'arrivée. C'est pour ça qu'on se disait que c'était impossible de faire le disque sans lui.
Et vous avez bien fait, parce que alors Steiner, son nom est peu connu, mais si on donne les musiques de films qu'il a composées, là tout de suite, vous allez dire, mais oui, bien sûr, il a notamment signé donc, la partition musicale de King Kong, le célèbre film réalisé donc en 1933. Il a écrit quasiment 300 musiques pour le cinéma, vous imaginez un peu. Il a remporté 3 Oscars, nommé aux Academy Awards pour 21 partitions, dont une qui est ultra connue, le film... C'est celle du film « Autant en emporte le vent ». Alors, qui ne connaît pas ce film réalisé en 1937, et je vous propose d'écouter tout de suite donc, le thème principal, parce que malheureusement, notre émission ne permet pas d'écouter toute la musique du film, on aimerait bien, mais allez le voir au cinéma. On va donc écouter juste le thème principal, interprété et arrangé ici au piano par Jeff Cohen. Un extrait donc de cette musique de film « Autant en emporte le vent » du compositeur Max Steiner, interprété ici par Jeff Cohen. Alors en fait, j'ai chanté, c'est-à-dire j'ai raccourci la fin parce que ça s'enchaîne avec une autre chanson. Votre disque est construit vraiment comme une comédie musicale. Il y a un parcours, il y a quelque chose. Et donc ça m'a obligé à ruser un petit peu pour pouvoir couper. Très, très, très belle musique. Et avec Jeff Cohen, on en a parlé magnifique ici.
Extraordinaire, il est d'une virtuosité. Et là aussi, quand on est autour du piano avec Jeff et qu'il joue ça, c'est plein de joie. C'est vraiment, c'est des moments de bonheur.
Alors justement, Jeff Cohen, qui est en partie responsable de la redécouverte du dernier compositeur dont on va parler ce soir, qui est Norbert Glanzberg. Oui. Au tournant des années 2000, Jeff Cohen a enregistré un CD qui s'appelle Yiddish Touch in Paris, où, avec des œuvres de Norbert Glanzberg, Joseph Kosma, Leo Smith, etc. Et dans votre disque, vous interprétez 2 chansons de Glanzberg. Alors Glanzberg est connu pour ses chansons, bien sûr, il a écrit pour les plus grands interprètes, Edith Piaf. Donc là, dans votre disque, vous avez la chanson Sophie, et puis également la chanson Jenny la Chance, composée en 1955 pour Patachou. Il a écrit énormément de chansons. Il a aussi écrit des œuvres beaucoup plus sérieuses qu'on ne connaissait pas. Bon, il y a cette fameuse suite Yiddish, Holocaust Leader magnifique qu'on ne découvrira pas ici, mais on a fait déjà une émission consacrée à Serge Glanzberg avec son à Norbert Glanzberg avec son fils
que j'ai
Serge
rencontré,
Glanzberg. Ouais. Donc je vous invite à réécouter cette émission sur le site de l'Institut européen des musiques juives. Et juste comme notre émission va bientôt se terminer, juste quelques mots sur Norbert Glanzberg. Lui, il a dû rester à Paris. Alors pourquoi ?
Alors il y a beaucoup d'explications, mais une qui vient de Norbert, puisque je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais j'ai rencontré son fils qui a fait, je crois, 60 heures de film sur son papa. Et une des explications... Puisque Norbert est arrivé à Paris en même temps que Kurt Weill. Kurt Weill a quitté Paris avec les parents de Norbert. Et Norbert est resté parce qu'il est tombé amoureux d'Edith Piaf et réciproquement. Que Piaf avait en lui un compositeur, un pianiste et un amant. Et qu'elle n'était pas prête à le laisser partir. Et qu'elle dut donc brûler ses papiers. C'est-à-dire qu'à un moment, il a voulu rejoindre ses parents et il s'est rendu compte de ce qui était en train de se passer, mais c'était trop tard, elle lui a brûlé ses papiers. Donc voilà, ça c'est une des explications qui est un petit peu... Voilà, c'est assez étonnant de découvrir ça. Et du coup, Norbert s'est retrouvé prisonnier quelque part en France.
Oui.
À Paris d'abord, et puis après obligé de se cacher, évidemment, pour ne pas être...
Et dans mes souvenirs, il est échappé de peu, de parfois, à la mort et à des rafles.
À chaque fois, grâce à la musique. C'est ça qui est absolument dingue dans le parcours de Norbert. C'est des tout petits... C'est sa musique qui l'a sauvé à chaque fois, quasiment. Et c'est vrai que ça, c'est un des autres points communs avec Jeff. C'est-à-dire, moi, j'ai consacré un spectacle entier à Norbert parce que je trouvais ça hallucinant que la plupart des gens connaissent pas d'âme, mais ne connaissent pas du tout cet homme qui a un parcours extraordinaire. Et quand on parle de musique française, ça me choque toujours un peu parce que Norbert, c'est un jeune immigrant juif de l'Est aussi qui est arrivé là et qui a fait certains des plus grands tubes de la chanson française. Et donc je trouvais j'avais absolument envie de faire connaître son parcours de transcendance à nouveau, de comment il s'est sorti de tout ce qu'il attendait, et il y en a eu des pièges à chaque coin pour continuer à créer. Et en même temps, Norbert, il était assez fâché parce que, alors justement, Jeff a rencontré Norbert. Et c'est assez étonnant qu'on ait tous les deux eu ce point d'ancrage avec Norbert. Et Jeff disait que Norbert était un homme en colère, ce qui se comprend. C'est-à-dire quelqu'un à qui on a volé la vie et qui a pu, je pense, trouver la paix parce qu'enfin, à Würzburg, la ville dans laquelle il a vécu toute son enfance musicale, il y a une jeune étudiante qui a décidé de faire de lui faire un hommage, et qu'il est resté en vie jusqu'à cet hommage et qu'il est mort 2 jours après, ce qui est quand même très significatif. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Alors on va écouter donc une de ces grandes chansons écrites pour la môme Piaf. Il s'agit de Sophie.
Du temps de votre vie, vous vous appeliez Sophie et vous étiez jolie, Mademoiselle Sophie. Vos jours pleins de folie et votre fantaisie vous firent la plus jolie, Mademoiselle Sophie. Oh Sophie, Sophie, vous aviez de beaux cheveux, un sourire délicieux, des rêves pleins les yeux. Quel être merveilleux vous faisiez dans la vie, Mademoiselle Sophie. Un homme sans fantaisie dont vous aviez envie entra dans votre vie, Mademoiselle Sophie. Il vous a dit, chérie, je vous aimerai pour la vie, mais il vous a menti, Mademoiselle Sophie. Oh Sophie, Sophie, ne vivant que pour lui, vous laissiez vos amis pour ne penser qu'à lui. Mais il n'a rien compris, un jour il est parti, Mademoiselle Sophie. Adieu la fantaisie, adieu votre folie, vous n'aimiez plus la vie, Mademoiselle Sophie.
Un extrait donc de la chanson Sophie, chantée à l'origine par la môme Piaf. Ici, c'est la môme Isabelle, la môme Isabelle Georges, qui n'est plus une môme, qui est une grande dame de la comédie. Et cette chanson qui a été écrite en 1946 par Norbert Landsberg pour Edith Piaf, vous me disiez en micro que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé.
En fait, Edith avait demandé à Norbert d'écrire une chanson un peu blues. Il lui a composé cette musique et dans son dos, elle a fait un texte et elle l'a enregistré sans lui dire. Et il a découvert ça plus tard. Il était assez fâché, je crois.
Ça se comprend un petit peu.
Ça se comprend un peu.
Alors, écoutez, vous le savez, Isabelle Georges, notre émission doit se terminer. Donc, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Je pense qu'on, tant qu'on aura l'occasion, on reconduira des émissions comme celle-là. Je voulais vous remercier infiniment, donc, au nom de Judaïque FM, de nos auditeurs et auditrices, pour votre présence rayonnante sur ce plateau. Et donc, je vous invite à vous procurer donc, très rapidement ce très beau disque, Vienne, Paris, Hollywood, donc enregistré dans le label La Musica. Donc, Isabelle Georges, bien sûr, au chant et Jeff Cohen au piano. Pour savoir où vous procurer ce disque, vous pouvez vous rendre alors sur internet, vous le trouverez partout. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet, le site de l'Institut européen des musiques juives. Je rappelle l'adresse, est très simple, c'est iemj.org, les initiales, Institut européen musique juive, donc iemj.org. Vous trouverez un article avec des extraits, des renseignements, tout ce que vous devez savoir et des tas de liens qui vous renverront d'ailleurs vers le label La Musica et vous donneront les moyens de vous acheter ce disque. Vous pourrez également réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes, donc notamment celle sur Norbert Landsberg, sur le même site internet. Et bien sûr, cette émission sera disponible sur jdaikfm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, Antoine à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.